Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre série qui s'appelle « Aidez vos enfants à apprendre à vous honorer ». Aidez vos enfants à apprendre à vous honorer. C'est la partie 2 aujourd'hui, par défaut. Donc, commençons maintenant. Lorsque les individus ne parviennent pas à gérer leurs émotions, à maîtriser leurs sentiments lorsqu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils souhaitent, les relations en souffrent. Les individus en souffrent et la société, dans son ensemble, en souffre également. Dans le cadre normal du travail et de la société, on peut dire de la commerce entre les individus, on attend des individus qui travaillent ensemble, qui font la collaboration, qui collaborent ensemble. C'est ça que nous attendons dans notre société. Ils négocient, ils cèdent aux autres dans l'intérêt de tous. Sans l'honneur, sans le respect, comment cela pourrait-il fonctionner? Si vous y réfléchissez, vous imaginez sans doute une société en plein bouleversement et plein de conflits. Notre société actuelle ressemble à celle décrite par l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 3. Considérons 2 Timothée chapitre 3. Bien sûr, dans l'Église de Dieu, nous ne sommes pas simplement contenter de faire un peu mieux que la société. Il y a eu déjà des présentations dans le passé qui ont décrit le fait que si nous suivons la tendance de la société et si nous sommes considérés entre nous un peu mieux que fait la société, qu'est-ce qui se passe dans le long terme? C'est que notre standard, notre tendance, c'est de faire de plus en plus comme la société et de tomber, si vous voulez, de faire une chute comme la société, si notre attente, c'est de faire un peu mieux que la société. Voyez-vous comment ça peut changer? C'est relatif tout ça. Mais dans 2 Timothée chapitre 3, l'apôtre Paul explique à Timothée au verset 1 ceci. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est quand même, malheureusement, un tableau assez décourageant de la société autour de nous. Mais c'est aussi un avertissement essentiel. Essentiel pour nous qui sommes dans l'Église de Dieu. De ne pas suivre la société, de ne pas suivre les tendances de la société, mais de toujours rester, si vous voulez, éloigné dans nos principes, dans nos valeurs, dans nos comportements, de ce que la société fait. Et comment faire ça? C'est rester accroché à l'instruction biblique et mettre en place l'instruction biblique dans notre propre vie. C'est notre responsabilité individuelle, n'est-ce pas? Donc, même si nous ne pouvons pas contrôler ou maîtriser la société autour de nous, notre travail en tant que disciples de Christ, c'est de maintenir les normes que Dieu nous définit dans sa parole. Même si ces normes de la société continuent de décliner. C'est pourquoi il est important d'approfondir la signification profonde du cinquième commandement. Il ne s'agit pas seulement d'éducation parentale, il ne s'agit pas seulement d'améliorer la dynamique familiale ou de restaurer le respect au sein du foyer seulement, il s'agit de former la prochaine génération au sein de l'Église afin qu'elle soit composée de personnes intègres qui comprennent l'importance de l'honneur, qui respectent l'autorité. Bien sûr, les différents types d'autorité dans leur vie, et qui vivent selon le dessein de Dieu, la voie divine pour leur vie, en se soumettant à l'autorité de Dieu dans sa parole. Bien sûr, l'autorité de Dieu, c'est l'autorité ultime. Ce type d'obéissance à Dieu est non seulement une bénédiction pour l'individu, mais aussi, bien sûr, pour toute la communauté autour. Pour l'Église, disons, nous pouvons imaginer que lorsque le cinquième commandement sera mis en pratique au cours du millénium, il sera fondamentalement bénéfique pour la société dans son ensemble. J'ai déjà fait cette expérience, peut-être vous aussi, de méditer le principe que si jamais la société se décidait de mettre en pratique l'un des commandements bibliques, qu'est-ce que ça produirait? Qu'est-ce que ça produirait si la société entière, si tout le monde était bien d'accord à 100% à mettre en pratique un commandement de Dieu et si c'était sincère et persévérant de le faire? Frères et sœurs, on verrait une société changée même avec un commandement. Mais dans le millénium, il y aura bien d'autres, n'est-ce pas? Toute l'instruction de Dieu sera comme les eaux de la mer. Donc, dans notre précédente discussion sur le cinquième commandement, nous avons défini trois grandes lignes directrices dans notre approche de l'enseignement de l'honneur. La dernière fois, nous avons plutôt ciblé l'idée de montrer l'exemple. De montrer l'exemple pour que nos jeunes comprennent ce que c'est d'honorer les parents. Et d'encourager, pas seulement avec les mots, pas seulement avec les beaux paroles, les beaux propos, mais de les enseigner par l'exemple. Et nous avons discuté ces choses. Maintenant, nous allons passer à un autre sujet, mais nous allons continuer à mentionner d'enseigner à nos enfants l'honneur dans le cadre de leur éducation spirituelle et être conscient des conséquences du manque d'honneur. Donc, nous avons mentionné ça comme les lignes directrices, mais l'un des passages que nous avons abordé la dernière fois, c'était Matthieu 15. Matthieu 15. Je voulais revenir rapidement sur ce passage pour en discuter davantage. Matthieu 15, s'il vous plaît, vous reportez avec moi. Matthieu 15 et le verset 3. Matthieu chapitre 15. Je crois que ce passage nécessite un peu plus d'études pour être pleinement compris. Alors, la dernière fois, nous sommes passés assez rapidement, mais il est tellement pertinent pour cette discussion aujourd'hui que j'aimerais commencer aujourd'hui par l'examiner un peu plus en détail. Donc, Matthieu, chapitre 15. Dans le contexte ici, nous avons des pharisiens qui accusent Jésus-Christ, bien sûr, et ses disciples de plein de choses, de transgresser les traditions des pharisiens. Et les scribes aussi étaient impliqués. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est la réponse, si vous voulez, de notre Seigneur Jésus-Christ. Il leur répondit au verset 3, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? » Donc, il y a quelque chose à creuser ici. Verset 4, « Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Connaissez-vous quelqu'un qui essaie de s'échapper de ses responsabilités de temps en temps en disant « oui, mais non, je ne peux pas parce que, voilà, je l'explique, j'ai déjà ce problème-là qui m'empêche de vous aider ou m'empêche de faire quelque chose. Je suis désolé, je fais ce que je peux, mais je m'arrête là. » Dans un sens, c'est ce que faisaient les pharisiens dans cette tradition. Je vais vous expliquer un petit peu plus avec l'appui du commentaire Albert Barnes sur le Nouveau Testament, parce que je trouve que ce sujet est très important pour notre compréhension générale, que ce n'est pas juste beau parler, l'idée d'honorer son père et sa mère. C'est essentiel. Et on ne peut pas s'échapper. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous lire quelques propos ici, un extrait de ce commentaire d'Albert Barnes. Donc, ici désigne une chose consacrée au service de Dieu et qui ne peut donc être utilisée à d'autres fins. Donc, le mot « corban », c'est ça. Le mot « corban », c'est un mot hébreu qui désigne un don particulièrement envers Dieu, envers le service de Dieu. On peut dédier quelque chose comme corban pour Dieu. Donc, c'est ça que Albert Barnes nous décrit. Les Juifs avaient l'habitude de faire de telles dédicaces. Ils consacraient leurs biens à Dieu pour des usages sacrés comme ils le souhaitaient. Pour ce faire, ils utilisaient le mot corban, un mot ou un mot similaire, en disant que cette chose était corban, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un don à Dieu ou qu'elle lui était sacrée. La loi exigeait que lorsqu'une dédicace de ce type était faite, elle devait être accomplie. Intéressant. C'est comme une promesse pour l'avenir aussi. Donc, gardons ça à l'esprit. Je reprends ce que M. Barnes nous dit. La loi exigeait que lorsqu'une dédicace de ce type était faite, elle devait être accomplie. Donc, faites des vœux et acquittez-vous de vos engagements vers Dieu le Seigneur. C'est marqué dans Psaume 76, dit Albert Barnes. Et puis, la loi de Dieu exigeait qu'un fils honore ses parents, c'est-à-dire, entre autres, qu'il subvienne à leurs besoins lorsqu'ils étaient âgés et dans le besoin. Pourtant, les enseignants juifs affirmaient qu'il était plus important pour un homme de consacrer ses biens à Dieu que de subvenir aux besoins de ses parents. Donc, on commence à comprendre le contexte de cette explication de Jésus-Christ, de cette condamnation, si vous voulez. Je continue. S'il avait une fois consacré ses biens, en les déclarant corban, c'est-à-dire don à Dieu, il ne pouvait plus être utilisé. Donc, c'est dans la tradition. Même pour subvenir aux besoins d'un parent. Si vous comprenez, il y a des fois des besoins immédiats, émergents, des besoins qui ne sont pas prévus. Mais même dans ce cas-là, dans la tradition, il pouvait dire « c'est déjà corban ». Si un parent était dans le besoin et pauvre, et s'il demandait de l'aide à son fils, et que celui-ci répondait, même avec colère, « elle est consacrée à Dieu, cette propriété dont vous avez besoin et dont vous pourriez tirer profit grâce à moi, et corban, je l'ai donnée à Dieu ». Donc, pour comprendre le contexte, il y avait vraiment ce serment, si vous voulez dire, cette promesse, cette phrase qui était utilisée, qui était comme un texte qui était lu. Et puis, les Juifs, affirmaient que la propriété ne pouvait être récupérée et que le fils n'était pas tenu d'aider son parent avec celle-ci. Donc, dans un certain sens, ça peut éliminer des problèmes d'engagement, mais ça veut dire que quand on dit oui, quand on promet quelque chose, on a l'idée de suivre et d'être engagé. Mais l'idée ici, c'est un peu plus détaillé. Je continue. Il avait accompli un acte plus important en le donnant à Dieu, dans le sens de la tradition. Le Fils était libre. On ne pouvait plus rien exiger de lui pour son Père après cela. Ainsi, il pouvait, en un instant, avec ses petits propos, comme je vous ai déjà lu, se libérer de l'obligation d'obéir à son Père ou à sa mère, d'honorer son Père et sa mère. Le Fils juif privait ses parents d'un soutien sous prétexte que la propriété était consacrée au service de la religion. Jésus avait observé ça. Ils avaient vu que ces choses se sont devenues courantes, hein, que cette pratique est devenue assez courante. Il avait observé ça autour de lui et il condamnait ces gens pour se servir d'un prétexte de ne pas servir dans leur engagement, de ne pas honorer les parents dans ce cas-là. Intéressant. De plus, Barnes continue, la loi stipulait qu'un homme devait mourir s'il maudissait son père, c'est-à-dire s'il refusait de lui obéir et subvenir à ses besoins, ou s'il lui parlait avec colère. Pourtant, les Juifs affirmaient que même si, dans un excès de colère, de véritable mépris et de haine, un fils disait à son père, « Tout ce que je possède et qui pourrait vous être profitable, je l'ai redonné à Dieu », il ne devait être tenu pour responsable. Ainsi, toute la loi était rendue caduque, inutile par ce qui semblait être la piété. On parle bien sûr de l'hypocrisie, n'est-ce pas? De l'hypocrisie, parce que en déclarant à haute voix mes biens sont corban et en sachant qu'on ne peut pas s'occuper de ses parents, on est en train de ne pas respecter le cinquième commandement. Donc, selon leur point de vue, aucun homme n'était tenu d'obéir au cinquième commandement et de subvenir aux besoins d'un parent âgé et dans le besoin par superstition ou par méchanceté. Il choisissait de donner ses biens à Dieu, c'est-à-dire de les consacrer à un usage religieux. Notre Sauveur, Jésus-Christ, n'avait pas l'intention de condamner la pratique consistant à donner à Dieu ou à des causes religieuses ou caritatives. La loi de l'Évangile l'exigeait également. Jésus a même félicité une pauvre veuve qui a donné tout ce qu'elle possédait. Donc l'idée de rendre ses biens ou de donner du corban à Dieu n'était pas ça. Ce n'est pas ça qui était mal fait. Mais il a condamné la pratique consistant à donner à Dieu lorsque cela interférait avec notre devoir envers nos parents et nos proches, lorsque cela était fait pour se débarrasser du devoir de les aider, et lorsque cela était fait dans un esprit malveillant et rebelle, sous l'apparence de la piété, pour se soustraire à l'obligation de faire à nos parents terrestres ce que Dieu exigeait. L'idée en général, c'est de s'échapper de ses responsabilités. C'est de donner des prétextes pour ne pas respecter les 10 commandements. Est-ce que nous vivons aujourd'hui dans une société dans laquelle les gens sont assez vite à s'échapper de leurs responsabilités, même envers leurs parents? Je crois que c'est pour vous et moi très clair que c'est dans le contexte de la société aujourd'hui, c'est la même chose. Mais le prétexte n'est pas toujours religieux, mais le prétexte, c'est n'importe quel prétexte. Mais les gens aujourd'hui dans notre société, malheureusement, ne s'occupent pas de leurs parents comme ils devraient. Donc, encore une fois, nous allons mentionner aujourd'hui une continuation de cette série d'aider nos enfants à apprendre à nous honorer. Donc, cependant, j'ai également intégré à cela l'idée qu'en tant qu'adultes, nous continuons également à honorer nos parents. Donc, ce n'est pas seulement un serment pour les parents seuls, mais pour n'importe quel adulte. Donc, de le faire en tant qu'adulte renforce, en fait, les leçons que nous enseignons à nos jeunes enfants. Si nous sommes parents, c'est quand même ça notre exemple. Et nous avons mentionné ça la dernière fois. Notre exemple compte beaucoup plus que nos paroles, n'est-ce pas? Donc, nous allons explorer les principes bibliques qui aideront les parents à enseigner à leurs enfants comment les honorer. Et ce faisant, comment honorer Dieu lui-même. Et encore une fois, il ne s'agit pas de règles ou d'un cours sur l'éducation des enfants, même si je pense que ceux-ci sont très utiles parfois. C'est plutôt des moyens pratiques que nous pouvons mettre en place pour renforcer d'une certaine manière ces choses. Donc, une base pieuse dans nos foyers, une base dans la voie divine, dans notre foyer et dans nos familles, afin de créer et de cultiver une culture d'honneur qui profite à nos enfants, à nos familles et bien sûr à l'Église. C'est ça l'objectif. Donc, dans ce deuxième sermon, nous aborderons l'honneur en action. Donc, l'honneur en action. L'idée de pratiquer, de prendre soin de ses parents et en même temps, le langage respectueux. C'est ça que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, honorer ses parents signifie de servir ses parents et de subvenir à leurs besoins, si nécessaire, notamment s'ils ne sont plus autonomes ou indépendants. Ce n'est pas la même responsabilité envers les autres, mais cela peut s'étendre au même aux autres, dans le sens où, si nous avons pris l'habitude de prendre soin de nos parents, si nous avons développé des compétences de soins, de la patience et le sens du sacrifice pour prendre soin de nos parents, alors nous sommes plus aptes à prendre soin d'autres également. C'est comme une formation, c'est comme une possibilité d'être plus formé à s'occuper d'autres. Et Dieu a toujours demandé à son peuple de faire cela, de s'occuper de leurs parents. Dieu a toujours souhaité que nous prenions soin de nos parents lorsqu'ils vieillissent de manière lorsqu'ils en ont besoin. Donc, je pense que même l'idée du proverbe 23 aborde brièvement le sujet, si nous pouvons considérer proverbe 23 et le verset 22. Donc, ce n'est pas mentionner le soin, mais en mentionnant clairement la relation qui est créée lorsque nos parents vieillissent et qui est précieuse aux yeux de Dieu. Donc, proverbe 23 et le verset 22. Proverbe 23 et le verset 22. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Intéressant, la vieillesse est mentionnée. Le mépris de la mère est mentionné même. C'est comme si, autour d'eux, à l'époque, il y en avait qui méprisaient ou qui ne s'occupaient pas de leurs parents. Bien sûr, on ne peut pas prétendre que les gens faisaient parfaitement ces proverbes. C'est pour ça qu'ils existent. C'est parce qu'il y avait un standard, hein, il y avait un cible ici, de faire mieux, de fixer un objectif, de ne pas laisser la mère ou le père quand ils sont devenus vieux. Donc voilà, c'est une exigence, une exhortation, je dirais. Et donc, je pense parfois à ces maisons de retraite qui existent et au fait que certains ont simplement placé leurs parents âgés dans ces situations difficiles sans jamais leur rendre visite, sans jamais les appeler, sans jamais prendre soin d'eux, sans jamais leur tendre la main. Et c'est très regrettable. Si vous êtes déjà allé dans une maison de retraite pour rendre visite à vos parents ou à quelqu'un, vous l'observez. Vous connaissez qu'il y en a là qui ne voient jamais leur famille, même si la famille existe. Ils ont des relations peut-être coupées de leur famille pour des raisons diverses et variées, mais pour moi, ça m'a toujours attristé de voir ces gens-là. Depuis ma jeunesse, je suis attristé de voir les gens qui souffrent sans le contact avec la famille. Donc, ça fait vraiment quelque chose quand on fait une visite, quand on passe les voir, quand on les encourage, même si on est obligé de les placer dans une maison de retraite pour qu'ils soient soignés. Donc, l'idée de les laisser comme ça, sans les rendre visite, sans appeler, sans participer à leur vie, ce n'est pas d'accorder de valeur à ce parent. Et les gens souffrent de cela. Et encore une fois, dans la mesure du possible, lorsque c'est possible de les faire. Je comprends que dans certaines situations, la famille n'existe plus. Dans la congrégation d'Atlanta, une personne âgée vivait dans une maison de retraite et toute sa famille n'existait plus. Elle n'avait pas d'autres membres de famille. Donc, il n'y avait pas d'enfants. Elle avait déjà vécu plus longtemps que ses enfants et tout le monde. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas quelque chose que l'enfant peut faire. Mais, bien sûr, quand c'est possible, il faut le faire. Et c'est ça l'exigence du cinquième commandement que nous abordons aujourd'hui. Dans 1 Timothée, considérant 1 Timothée, prenons l'exemple du Nouveau Testament pour montrer que même l'Église elle-même dispose de mécanismes ou une manière d'aider et de soutenir le processus de ceux qui sont en famille, qui vont rendre service à leurs parents. Donc, je voudrais répéter, l'Église soutient que les membres de famille soutiennent leurs parents. L'Église peut vous aider, vous savez, l'Église dans son ensemble, les membres de l'Église, les ministres de l'Église, l'Église peut vous aider à soutenir votre famille. Comment cela? C'est un rôle important de l'Église, n'est-ce pas? Il existe de nombreuses façons de vous soutenir dans votre approche, dans votre tâche. Il y a la connaissance, bien sûr. Il y a le soutien émotionnel pour ceux qui s'occupent de l'autrui. Il y a toutes sortes de soutiens. L'Église peut vous soutenir pour accomplir votre rôle en tant qu'enfant. Et Dieu se soucie tellement des membres de l'Église qu'il prévoit également que l'Église intervienne lorsqu'il n'y a pas d'autre recours. Lorsqu'il n'y a pas d'autres personnes compétentes pour s'occuper d'un membre âgé, en particulier d'une veuve. Donc, nous voyons cela dans 1 Timothée, entre autres endroits, bien sûr, mais nous le voyons dans 1 Timothée. J'ai trouvé cela très intéressant. Il y a plusieurs petits passages comme ça dans 1 Timothée, considérant 1 Timothée 5. 1 Timothée 5 et le verset 1. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Donc, c'est Paul qui s'adresse à Timothée et à nous tous dans ce sens de chaque membre de la congrégation, chaque membre de l'Église, peu importe l'âge. Donc, il y a un respect mentionné ici, sous-entendu, un respect, un honneur qui est quand même intéressant. Je trouve remarquable que Dieu puisse, en inspirant Paul, enseigner cette pratique du ministère et la manière dont le ministère doit également respecter les unités familiales. Et même dans le sens où un jeune pasteur, peut-être on peut imaginer au sein de l'Église, n'est pas censé d'arriver et faire table rase et rompre toutes les relations familiales qui sont établies au fil de temps. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'Église est là pour soutenir les liens familiales qui existent ou qui n'existent pas très bien. pour rendre service, pour essayer de les faire fonctionner si c'est possible. Dieu souhaite que le ministère de l'Église, dans son ensemble, soit un soutien naturel, l'honneur que Dieu a donné au Père et aux Mères. Donc, il y a ici un respect mutuel, mais cela commence également par la première étape, qui consiste à ne pas réprimander et au lieu de faire ça, à exhorter. Et puis après, à traiter les femmes plus âgées comme des mères. Ça veut dire honorer, n'est-ce pas? Donc, on parle ici de l'honneur, de les estimer, de les apprécier. Dans l'Antiquité, souvent, à Sparte, par exemple, dans l'Antiquité, avant même que cela soit écrit, les personnes âgées, des fois, étaient considérées comme un fardeau pour la société. Dans certaines sociétés antiques, c'était le cas, et les personnes âgées étaient considérées comme des personnes qui consommaient des ressources et qui ne pouvaient pas offrir de la production. C'est malin, n'est-ce pas? C'est pas ça qui va enseigner la parole de Dieu ou qui va respecter l'honneur des parents. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais comme je vous ai dit, nous sommes dans une société aujourd'hui que, au moins je trouve, les habitudes humaines prennent rapidement le dessus et érode l'honneur envers les parents, même envers les personnes âgées. Des fois, on entend des discours qui sont assez directs, qui critiquent les dépenses pour la population âgée dans la société. Et je trouve que ce n'est pas une façon d'honorer nos anciens, nos aînés. Donc, c'est intéressant de noter au verset 3 ce qui est dit ici. La responsabilité incombe donc aux enfants de prendre soin de leurs parents avant tout. Donc, plus loin, il y a certaines conditions à remplir en termes d'âge, de situation matrimoniale et d'autres critères qui définissent ce que c'est vraiment une veuve même. Cependant, il s'agit là encore d'un soutien. Ce passage, parmi d'autres, soutient quelque chose que la famille devrait faire. Il soutient une responsabilité familiale. Donc, la famille n'est pas censée être rompue par l'Église ou par le gouvernement, par la société. On est censé, si on suit ce principe, de soutenir la famille, d'encourager le lien familial. Et ça commence à l'âge des jeunes, ça commence avec les enfants. Et encore une fois, notre société aujourd'hui, souvent, essaye de séparer les enfants des parents, de ne pas valoriser l'unité familiale que nous avons déjà discutée dans le passé. Intéressant au verset 8, très important ici, le verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. » C'est très dur, n'est-ce pas? Mais ça reprend ce que nous avons déjà mentionné du livre de Lévitique aussi. C'est quelque chose qui est sévère, qui est vraiment défendu, l'idée de laisser et de ne pas honorer les parents. Donc, il faut quand même accepter la gravité de cette situation et de ce rôle en tant qu'un enfant lorsqu'on est adulte. Cela inclut les enfants et les parents. En quelque sorte, lorsque vous avez les parents âgés qui sont dépendants, peut-être un veuf dans le foyer, il est dit qu'il a peut-être renié la foi et qu'il est pire qu'un non-croyant si quelqu'un l'abandonne. Donc, c'est quelque chose qui touche au cœur de la foi et de l'idée que Jacques renforce dans son épître aussi, l'idée d'avoir une foi vivante, de montrer avec de bonnes œuvres la foi. Il est essentiel que si nous avons des membres de notre famille qui souffrent et qui sont dans le besoin, qui sont dépendants, il est essentiel que nous prenions soin d'eux. que nous souvenions à leurs besoins. Et encore une fois, cela peut être un sacrifice, bien sûr. Cela peut être difficile, mais ce n'est pas parce que c'est difficile que nous allons, vous savez, fermer les yeux et passer de côté. Donc, oui, nourrir, vêtir, même nourrir au sens propre, s'il y a besoin, on peut dire cuillère par cuillère des fois, vous pouvez penser à s'occuper, à vous occuper de vos parents dans ce contexte-là. Donc, comme je vous ai dit, parfois c'est chaque cuillerée, mais parfois nos parents sont très indépendants. Parfois c'est juste de l'encouragement, c'est juste des appels. Il faut s'adapter aux besoins, n'est-ce pas? Mais l'idée, c'est de ne jamais laisser tomber l'honneur, de ne jamais manquer de respect envers les parents dans la façon que nous nous occupons d'eux. C'est ça. Mais des fois, nous sommes nous-mêmes dans une difficulté et nous avons du mal à donner ou à être présents pour rendre service. Mais ça, c'est normal. Mais le côté d'abandonner, de dire je ne peux plus vous honorer, je ne peux plus avoir de contact avec vous, c'est très sérieux quand il y a un parent en besoin. Donc, des fois, ça veut dire que c'est quand même, comme je vous ai dit, très pratique, très, très pratique. Moi, je me souviens d'une importante dispute entre mes deux oncles et mes grands-parents quand j'étais plus jeune, alors qu'ils vivaient ensemble depuis de nombreuses années en tant que personnes âgées. Ils ne souhaitaient pas qu'ils modifient la salle de bain chez eux, mes grands-parents. Ils ne souhaitaient pas que l'on touche aux salles de bain, aux toilettes de chez eux. Donc, mes oncles avaient insisté qu'il fallait faire des rénovations pour faire en sorte que cette salle de bain soit accessible, si vous voulez, pour les personnes avec mobilité réduite. Mes grands-parents disaient non, 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 jamais vous ne toucherez à nos salles de bain. Cependant, je suppose que mes oncles ont décidé un jour de le faire entre eux, et c'est sûr, ils sont entrés dans la salle de bain et avec leurs propres compétences, qui sont vraiment, vraiment bonnes, ils ont refait entièrement la salle de bain. Et ils ont commencé comme ça. Ils se sont permis de le faire, si vous voulez, parce qu'ils avaient toutes les compétences nécessaires pour effectuer ces travaux de rénovation. Donc, ils ont entré, ils ont rénové, et qu'est-ce qui s'est passé? Mes grands-parents les ont félicités après coup et ont adoré le résultat. À chaque visite après, mes grands-parents parlaient alors qu'ils recevaient des visites. Ils disaient, « Oh, c'est formidable! Nous avons les bonnes poignées, nous avons tout ce qu'il faut pour nous déplacer et prendre soin de notre mobilité. » Et ils ne tarissaient pas d'éloges chaque fois que nous leur rendions visite. Donc, c'est ça. C'était quelque chose qui est arrivé pour expliquer que le soutien n'est pas toujours facile, dans le sens où on peut identifier un besoin chez le parent, mais c'est une collaboration, n'est-ce pas? C'est une coopération pour que ça soit effectué. Et je trouve ça comme un bon exemple de la persévérance. Au lieu de dire « Ok, vous ne le voulez pas, on va abandonner le projet. » Donc, je me souviens toujours quand on est parti vers chez eux pour rendre visite à mes grands-parents, ils ont dit « Avez-vous vu ce que nos fils ont fait à la salle de bain ?» Ils étaient tellement fiers de ça. Donc, comme je voulais dire, parfois il faut insister un peu pour pouvoir rendre service chez les parents. Donc, je sais, depuis le décès de mon père, il y a quelques années, ma mère compte beaucoup sur moi. J'avais pas imaginé que ça soit aussi nécessaire, mais elle compte sur moi beaucoup pour, même si je vis ici au Canada, elle compte sur moi pour prendre décision sur beaucoup de choses. Elle compte sur moi pour l'aider dans les domaines où mon père prenait les décisions avant. Et c'était lui qui s'occupait de tout dans certains domaines. Et maintenant, elle apprécie que moi, je sois autour de la table, si vous voulez, pour prendre décision avec elle. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas le même type de soutien pour chaque personne, mais la base, c'est quand on identifie le besoin, c'est de respecter les parents, c'est de cultiver un respect pour que ce parent ressent le respect que nous offrons envers eux. Donc, c'est ça. On ne peut pas simplement dire, ben, ils ne m'ont rien demandé, par exemple. Non, des fois, il faut insister un peu. Et si vous avez déjà discuté avec vos parents dans le passé, ce n'est pas toujours le premier appel qui va vous révéler qu'il y a un problème. Des fois, il faut un peu plus de temps. Des fois, il faut visiter. Des fois, il faut parler davantage. Et puis, maintenant, on va ouvrir la porte un peu pour vous laisser passer dans la partie de la difficulté. Ma mère m'a déjà dit que c'était des fois difficile pour elle d'ouvrir cette porte pour pouvoir vraiment discuter de la difficulté de vivre seule, par exemple. Elle essaie de faire semblant que tout va bien, mais elle dit que dans l'intérieur, ça, c'est troublant et elle a du mal à vivre seule parce qu'elle avait quand même beaucoup d'années avec mon père. Donc, ce que je veux dire, c'est que des fois, ce n'est pas seulement sur la surface. Des fois, il faut percer un peu plus, il faut aller plus loin pour découvrir les vrais besoins. Le soutien financier est vraiment un sujet très intéressant quand on parle de soutien. J'ai parlé déjà d'autres types de soutien, mais le soutien financier, c'est assez intéressant car d'après les articles et les recherches que moi j'ai effectuées, la situation actuelle semble être la suivante. Et c'est celle-ci. On dit aujourd'hui, je suis votre enfant, c'est donc à vous de prendre soin de moi. C'est ça la société actuelle. Je suis votre enfant, donc même en tant qu'adulte, vous êtes obligé de prendre soin de moi. Ils disent, pour continuer, je suis censé de recevoir de l'argent de votre part car je suis votre responsabilité, même en tant qu'adulte. Cependant, la Bible enseigne le contraire, l'inverse, n'est-ce pas? Et c'est dans le contexte d'honorer nos parents. Si nous établissons une relation avec nos parents, dans lequel nous attendons qu'ils souviennent à nos besoins financiers, c'est une façon de ne pas honorer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander de temps en temps. Si on avait besoin de quelque chose, on peut demander de l'aide, bien sûr. Mais dans le contexte général, on n'établit pas une relation en tant qu'adulte de dépendance sur les parents. On est censé d'établir l'inverse. Si ce n'est pas une idée nouvelle pour vous, vous pouvez peut-être penser, méditer les choses que vous faites pour vos parents. Et si jamais vous pouvez imaginer que s'ils tombaient dans le besoin, est-ce que vous avez mis de côté un peu d'argent pour rendre service à votre famille? Ou est-ce que votre budget, c'est à 100% sur votre propre foyer? C'est quelque chose à considérer. Ce n'est pas tout de suite qu'on peut établir des fonds pour pouvoir s'occuper de nos parents lorsqu'ils sont dans le besoin. Et des fois, c'est assez imprévu quand le parent ne peut plus travailler, ne peut plus gagner de revenus suffisants. Je sais que pour moi, dans ma famille, c'est le cas. C'était un peu difficile l'ajustement pour ma mère après le décès de mon père. Donc, ce ne sont pas les parents, dans le contexte biblique, ce ne sont pas les parents qui sont censés nous aider lorsque nous traversons des difficultés financières en tout temps. Nous ne pouvons pas faire comme quelqu'un qui dépense l'argent de nos parents droite à gauche. Donc, pensez à une personne âgée pour imaginer la difficulté de tout ça. Un revenu fixe, quelqu'un qui ne peut pas travailler, et vous, vous êtes jeune, vous travaillez, vous gagnez de l'argent et vous dites à cette personne qui est sur un revenu fixe, je voudrais une nouvelle voiture, je voudrais quelque chose, je voudrais quelque chose. Où est ma part? C'est la société actuelle. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ça va jusqu'au point où les jeunes, des adultes qui vivent même chez leurs parents pendant des années, des années et des années, au lieu d'établir leur indépendance. C'est une forme d'être dépendant sur les parents. Donc voilà, ce sont des points pratiques, comme je vous l'ai dit. Mais ce que la Bible enseigne réellement à ce sujet, c'est que lorsque nos parents ont des besoins financiers, nous devons travailler suffisamment dur pour être prêts à répondre à ces besoins, si possible. Donc voilà. Donc on passe. Si je planifie correctement, quand je suis jeune, si je planifie et que j'ai mon travail, ma carrière ou autre, je n'ai pas besoin de consacrer tous mes revenus à mes dettes et à ce genre de choses. Je dois garder de côté une partie pour pouvoir s'occuper des besoins de la famille, en particulier mes parents. Donc, c'est l'idée de vivre un peu en dessous de notre capacité, n'est-ce pas, pour partager avec d'autres. Donc, il y a d'autres choses que nous pouvons faire pour soutenir les parents. C'est impliquer les petits-enfants, nos enfants, pour participer aux visites, aux discussions, pour garder la relation avec les parents, même si on est éloigné. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile juste de garder une relation en ligne ou par téléphone en tout temps. C'est quelque chose qui est possible et qui est techniquement, mais c'est pas la même chose que se rendre visite chez eux souvent, être vraiment impliqué dans la vie des petits-enfants. Et des fois, ce n'est pas possible, mais je sais que les parents apprécient l'effort quand c'est possible de garder un contact avec leurs petits-enfants. Donc, l'idée d'encourager une discussion avec notre enfant, au lieu de simplement, comme des fois moi-même, j'ai la tendance de parler avec ma mère, et puis, hop, je dis au revoir, et je me souviens après, ah, je n'ai pas demandé à mes enfants d'en parler aussi. Donc, c'est quand même, comme je vous dis, c'est pratique, mais c'est important. Donc, voilà. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, j'accompagnais mon père pour tondre la pelouse de mes grands-parents. On vivait dans la même ville et donc on entretenait leur jardin. On allait ratisser leurs feuilles. On faisait toutes sortes de tâches autour de chez eux et même dans les maisons de mes deux grands-parents. Et je rejoignais mes oncles, ceux-là même, qui effectuaient les travaux de rénovation aussi. Ils avaient un jardin chez eux assez grand et je faisais beaucoup de tas de feuilles dans l'automne et c'était toujours amusant. Donc, nous pouvions quand même jouer les cousins dans les feuilles. Parfois, nous demandions à mon grand-père, « Allez-vous abattre ces arbres? Il y a tellement de travail pour balayer et ratisser les feuilles. » Et puis, il disait non, 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 non. Nous avons essayé quand même. Nous avons essayé de prendre soin d'eux lorsque j'étais jeune à cause de mes parents. Nous étions proches d'eux à cause de mes parents, les efforts que mes parents ont fait envers mes grands-parents. Et c'est quelque chose que j'avais, auquel j'avais le droit de participer. Donc, c'est possible dans différentes situations. Bien sûr, ça, c'est l'idéal d'être tout prêt, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, parfois, nous pouvons vraiment avoir l'impression, en tant qu'adultes, il y a un âge, même peut-être dans la quarantaine aussi, quand nous ressentons que nous sommes submergés par certaines responsabilités qui commencent à être de plus en plus lourdes et des responsabilités parfois inattendues lorsqu'un parent qui allait plutôt bien tombe malade ou rencontre un problème et que tout à coup, il passe d'une grande indépendance à une grande dépendance. Cependant, notre perspective doit pencher du côté de donner et de sacrifier notre temps et de l'aider. Ça peut nous aider à comprendre qu'il n'est pas facile de vivre avec un revenu fixe, comme je vous ai dit. Nous devons garder cette perspective à l'esprit et nous sommes plus jeunes, nous sommes plus valides, nous devons être ceux qui essayent d'offrir leur aide. Donc, les avantages de cette démarche vont bien au-delà de la simple situation financière, bien sûr. Il y a également une attitude de respect qui renvoie beaucoup à l'idée de discours respectueux dont nous avons parlé précédemment. L'honneur implique l'humilité, il implique la patience, il implique des paroles aimables. Cela fonctionne mieux lorsque nous avons l'habitude, dès notre plus jeune âge, de faire preuve d'humilité et de respect et de patience et de gentillesse. Donc, je peux dire que dans ces situations où nous servant nos parents, nous rencontrons des désaccords, des choses à traiter, des situations difficiles. Et ça développe notre patience et notre capacité d'être engagé dans cette tâche. Encore une fois, je le répète, certains d'entre nous ne font pas partie, bien sûr, de cette catégorie. Nous n'avons pas grandi avec un bon modèle. Peut-être nous n'avons pas eu le bon modèle à suivre pour ce type de comportement. Peut-être nos parents n'étaient pas respectueux envers nos grands-parents ou même maintenant envers nous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous sommes censés de faire? Lorsque nous cherchons à subvenir aux besoins physiques d'un parent vieillissant, nous sommes des fois amenés à interagir davantage avec lui, et si la relation n'est pas bonne, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Comme j'ai mentionné, nous pourrions même devoir devenir un principal aidant des fois. Mais dans ces moments-là, nous serons confrontés à un moment donné d'une sorte de conflit ou de divergence d'opinion. Et des fois, il est difficile d'intervenir sans avoir du conflit. Je l'espère pour vous que ce n'est pas le cas, mais malheureusement, des fois, c'est le cas. Nous pouvons penser que nous faisons des sacrifices et que nous donnons d'une manière particulière qui va aider, mais le parent, de son côté, des fois, ne peut pas percevoir comme ces choses comme nous l'espérons. Peut-être que cela est rejeté, peut-être que cette aide n'est pas appréciée, peut-être qu'il ne serait pas mention. Peut-être même que dans certains cas, ça peut être interprété de différentes manières. Il peut donc y avoir des défis à relever pour parvenir à cela. C'est pourquoi nous devons être prêts à appliquer toutes cette instruction de Dieu sur la manière d'aborder ces situations avec respect et humilité. Ça, c'est la base, n'est-ce pas, de toutes ces choses, de garder l'honneur, de garder le respect. Donc, discutons maintenant l'idée d'une attitude de respect, un discours respectueux. Jacques 1 et le verset 19. Jacques chapitre 1 et le verset 19 et 20, où nous lisons « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Donc, comme règle générale, nous sommes censés d'être prompts à écouter. Pour établir ce discours respectueux, il faut être prompt à écouter et de ne pas se mettre en colère. Et c'est ça la difficulté des fois avec les adultes, en tant qu'adultes, avec les soins envers un parent. Des fois, certains désaccords de l'enfance vont sortir, ça va causer des problèmes et ça va bloquer la relation, n'est-ce pas, le côté relationnel. Et donc, ça demande beaucoup de patience, n'est-ce pas? Donc, nous connaissons ces principes, mais lorsque nous sommes confrontés à certaines situations, il faut les mettre en pratique, n'est-ce pas? Donc, il faut, comme je vous ai dit, c'est mieux de commencer en tant que jeune, et puis après, ça peut prendre du temps pour développer les qualités de respect et d'humilité nécessaires pour confronter ces situations difficiles. Considérons 1 Pierre 2. Il y a ici une extension de tout ça. 1 Pierre 2. Cela commence avec vos parents. Cela commence avec vos parents. Je souhaitais, en quelque sorte, m'appuyer sur ce passage particulier dans ce sens, où d'une certaine manière, nous sommes devenus les serviteurs de nos parents. Si vous pouvez imaginer d'être serviteur de vos parents à mesure qu'ils vieillissent, nous devenons des serviteurs. Donc, 1 Pierre 2. Donc, si nous avons la chance d'avoir des parents qui ont une vie longue, c'est une bénédiction, n'est-ce pas? C'est une bénédiction d'avoir des parents qui sont indépendants pendant longtemps, qui peuvent faire partie de la relation familiale, le foyer familial chez vous. C'est idéal, n'est-ce pas, d'avoir tout le monde autour de la table, ensemble, en train de partager des moments et des moments agréables. Ça, c'est l'idéal. Malheureusement, on n'est pas tous l'idéal, n'est-ce pas? Des fois, les parents ont des problèmes mentaux. Des fois, différentes situations sont difficiles. Mais quand il s'agit de donner de l'honneur, cette idée d'honorer tout le monde, 1 Pierre nous aide à comprendre cela envers tout le monde. 1 Pierre 2, verset 12. Nous pouvons appliquer ce passage à nos parents aussi. Donc, versets 12 et 13. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Pour moi, personnellement, j'ai même des exemples dans ma vie où j'ai vu réagir certains membres de la famille dans une façon comme ça, qui calomniaient leur propre famille comme s'ils étaient des malfaiteurs. Et des fois, c'était pas en eux, c'était leur démence ou quelque chose, mais il fallait faire face à ça. Mais verset 13 nous aide aussi. « Soyez soumis à cause du Seigneur. » Donc, premièrement, à cause du Seigneur, dans l'exemple de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes en train de poursuivre cette poursuite. Soyez soumis à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé, par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Donc, soyez soumis à toute autorité. C'est un principe de base, c'est humble, c'est la soumission. Et le verset 15 complète, « Car c'est là la volonté de Dieu. » Qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Donc, des fois, les hommes sont ignorants. Ils ne savent pas que nos efforts sont sincères. Des fois, même quand nous nous mettons dans un poste de service ou dans une position de servir, même dans la famille, des fois, ce n'est pas bien reçu. Alors, il faut persévérer quand même, n'est-ce pas? Il faut persévérer quand même. Et puis, il faut demander à Dieu de nous aider à persévérer, de nous donner la force de continuer dans notre service et de montrer le bon exemple. Verset 17, « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » C'est quand même un passage très significatif. Mais le verset 18, « En tant que serviteur de notre propre famille, contemplant cela, « Verset 18, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Si vous travaillez dans le domaine de service, vous savez que en donnant des soins, ce n'est pas toujours bien reçu. Même ceux qui sont là pour rendre service aux personnes mourantes, des fois, ils ne sont pas bien reçus. Ils reçoivent la frustration, l'angoisse, la rage de ces gens au lieu d'être bien reçus. C'est difficile de voir ces choses. Et alors, il faut persévérer avec humilité et se décider que même si je ne suis pas bien reçu, moi, je vais faire ma part. Je vais continuer à faire ma part, même si on me rejette, si on parle de moi dans une façon mauvaise, moi, je vais continuer. Moi, je vais faire de mon mieux en demandant à Dieu de bénir mes efforts. C'est ça, mon projet. Moi, j'ai l'agence, si vous voulez. J'ai la décision à prendre. Je ne vais pas abandonner parce que je ne suis pas bien reçu. Je vais persévérer avec l'aide de Dieu. Donc, nous allons, bien sûr, subir des fois des coups, des blessures, en essayant de servir les autres. Nous pouvons tous, par contre, nous mettre à leur place. N'est-ce pas? Nous pouvons essayer de comprendre que peut-être cette personne ne peut pas recevoir ce soin. Cette personne ne peut pas avoir de bonnes relations avec d'autres personnes. Mais je vais continuer à servir. Verset 19, « Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » C'est une grâce. Est-ce que nous le voyons comme une grâce? Je dirais que peut-être ce n'est pas le réflexe de le voir comme une grâce. Mais si on médite la parole de Dieu, on commence à comprendre que c'est une grâce de supporter ces choses parce que ça glorifie Dieu. Ça donne gloire à Dieu parce que c'est lui qui nous fortifie, n'est-ce pas? Je puis tout car Dieu me fortifie. C'est ça que Paul nous dit, n'est-ce pas? Donc parfois dans nos vies, nous nous surprenons à dire encore une fois, combien de temps? Combien de temps dois-je endurer tout cela? Combien de temps cela va-t-il durer? Et parfois, seul Dieu connaît la réponse à cette question. Cependant, lorsque nous sommes au service de nos parents qui nous ont élevés, nous allons endurer pour leur honneur. Pour leur honneur, nous allons endurer. Nous n'allons pas nous écarter, même dans ce type de situation. Nous n'allons pas les humilier. Nous n'allons pas utiliser des mots durs à leur égard. Nous n'allons pas leur manquer de respect. Nous allons essayer de les honorer du mieux que nous pouvons. Et je pense que c'est ça que ma grand-mère faisait pour moi lorsqu'elle essayait de prendre soin de mon arrière-grand-mère. Elle honorait sa mère en m'expliquant que ce n'était pas son attitude habituelle. Elle avait une démence et les soins étaient mal reçus. Et ma grand-mère m'a expliqué que c'était le cas, qu'il fallait continuer à servir. C'était anormal pour mon arrière-grand-mère qu'elle disait ces choses. Ma grand-mère me disait, elle ne pense pas vraiment cela. Elle est juste embêtée par cette démence. C'est quelque chose qui, vous comprenez, causait des problèmes dans la vie de ma grand-mère, parce que c'était difficile pour elle de recevoir ce traitement de sa mère. Mais aujourd'hui, j'ai l'exemple de ma grand-mère pour m'inspirer aussi de persévérer lorsque les gens nous maltraitent, et en particulier quand il y a des malentendus même avec ma propre mère. Donc, lorsque nous faisons ces choses, lorsque nous mettons en pratique ces principes, il y a plusieurs façons, plusieurs bénédictions, si vous voulez, qui sont apportées. Et donc, je vais devoir m'arrêter là, car c'est un sujet, comme je vous ai dit, très riche et intéressant. Et nous aborderons beaucoup d'autres choses la prochaine fois. Mais voici la conclusion de la deuxième partie de cette série. L'honneur par l'action, le côté pratique qui implique le soin et le discours respectueux. Donc, Dieu nous a donné de nombreuses façons à grandir, à croître spirituellement, à apprendre et de montrer l'exemple en matière d'honneur.